VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Mali, nouveaux affrontements entre les groupes armés signataires de l'accord de paix dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays, mardi. Des combats avaient déjà opposé la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Ex-rébellion dominante Touareg, au Gatia, le groupe d'autodéfense Touareg, IMGAT et allié pro-gouvernemental le 6 juillet dans le même secteur. Les toutes dernières violences hier ont coïncidé avec la tenue à Bamako d'une réunion du comité de suivi de l'accord de paix de mai-juin 2015, d'où la menace de sanctions contre les groupes responsables formulée par le chef de la mission de l'ONU au Mali, le Tchadien Mahamat Saleh Anadif. En tant que représentant du secrétaire général de l'ONU, j'ai beaucoup de moyens qu'à partir de maintenant, avec l'aide de la communauté internationale, je peux utiliser pour faire respecter le cessez-le-feu, a averti M. Anadif sans donner d'autres détails. Nigeria, le vice-président nigérian Yemi Osinbajo est de retour à Abuja après avoir rencontré le président Muhammadu Buhari à Londres, où le chef de l'État séjourne depuis le 7 mai pour raisons de santé. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole de la vice-présidence. Yemi Osinbajo avait quitté le Nigeria mardi pour cette visite éclair dans la capitale britannique. Aucune information n'a officiellement été communiquée sur cette rencontre, le premier face-à-face entre les deux hommes depuis plus de 2 mois. Relations États-Unis-Soudan maintenant, le président américain Donald Trump a prolongé de 3 mois la période probatoire décidée par son prédécesseur Barack Obama avant une éventuelle levée totale des sanctions économiques de Washington contre Khartoum. L'annonce en a été faite mardi soir par le département d'État. Jean-Roger Bion.
Par un décret présidentiel, M. Trump a prolongé cette période de 3 mois supplémentaires, soit jusqu'au 12 octobre, a indiqué dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert. Les sanctions seront définitivement révoquées si le gouvernement soudanais poursuit ses actions positives, a-t-elle fait valoir. Washington a, à l'égard de Khartoum, des exigences en 5 points, la fin du soutien aux groupes rebelles au Soudan du Sud, la fin des hostilités dans les provinces du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud, et une coopération avec le renseignement américain contre le terrorisme. Les sanctions économiques contre le Soudan avaient été imposées en 1997 pour son soutien présumé aux islamistes dont le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden, tué dans un raid américain au Pakistan en mai 2011. Dans les derniers jours de sa présidence, le 13 janvier dernier, M. Obama avait levé certaines sanctions frappant Khartoum depuis 20 ans, mais avec une période probatoire de 6 mois avant une possible suppression complète de ces mesures punitives. Cette période s'est achevée ce mercredi.
En RDC, l'opposition dirigée par Félix Tshisekedi suggère une transition de 6 mois sans le président Joseph Kabila. C'est sa réaction à l'annonce du président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, sur l'impossibilité de tenir les élections avant la fin de 2017. Fidel Lumeya, le président du Conseil congolais pour la paix et la justice basé ici aux États-Unis, a un tout autre point de vue. On l'écoute.
La réalité est que après le 31 décembre, nous allons vers un vide juridique. Vous ne venez pas organiser les élections dans 2 ans. C'est impossible parce que la logistique vous coûte trop cher et la maîtrise des données. Donc, le problème du Congo, c'est celle-là. Les gens veulent les négociations, les dialogues, parce que c'est simple. Mais nous n'élisons pas les gens pour ce qui est simple. Nous les élisons pour aller résoudre ce qui est complexe. Or, quand on arrive à des problèmes très complexes, les Congolais politiciens ont tendance de recourir à la rue. Vous écoutez cela, nous allons appeler la rue. Mais appeler la rue et après, quand on casse tout, vous perdez l'économie. Pour le moment, si on ose appeler à la rue, on prolonge le mandat du président de la République. Parce qu'il trouvera une raison de dire, écoutez, comme il y a un chaos, je ne peux pas laisser le pouvoir. Tout ce qui se passe au Kassai ne devrait pas se passer. Parce que toute analyse fidèle trouvera que le président Kabila regagne du poids de la bête.
Fidel Lumeya, président de l'ONG Conseil congolais pour la paix et la justice ici aux États-Unis. En RCA, l'ONU fait état d'au moins 6 morts et 2 000 de déplacés suite à des affrontements entre groupes armés à Zemio dans le sud-est du pays. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Ces affrontements opposent depuis 2 semaines des Peuls à des anti-Balaka. Le 28 juin, des hommes armés non identifiés ont pillé et brûlé des boutiques et des maisons dans la ville de Zemio, sur la frontière avec la RDC. D'après l'ONU, les violences ont continué jusqu'à vendredi dernier. Les premières estimations indiquent que près de 20 000 personnes sont déplacées sur au moins 5 sites. Le nombre total de personnes tuées n'est pas encore disponible, faute d'accès dans la ville où l'insécurité est quotidienne. L'ONU confirmait seulement l'enterrement de 6 corps dans une fosse commune. La force onusienne effectue des patrouilles robustes sur les principales voies de la ville de Zemio et ses environs. La situation sécuritaire à Bria, au centre du pays, demeure également préoccupante, où une centaine de personnes sont mortes. En revanche, une accalmie relative est observée depuis quelques jours à Bangassou, théâtre de massacre à la mi-mai qui avait relancé une nouvelle spirale de violence en Centrafrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Tchad, le gouvernement du président Idriss Déby Itno a revu à la baisse les salaires et indemnités de ses soldats et généraux dans le cadre des mesures d'austérité qu'il prend pour redresser l'économie nationale. Un décret a été signé à ce sujet le 3 juillet dernier. De N'Djamena, notre correspondant André Kodmajingar fait le point.
Désormais, les officiers supérieurs de l'armée tchadienne qui gagnaient 800 000 francs CFA pendant la période de vache grasse chutent en flèche. Ils doivent dorénavant se contenter de 360 000 francs CFA et un soldat chute de 50 000 à 34 000 francs CFA. Au cours d'un débat ce lundi à l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas été tendres avec le gouvernement. Le député Nouradine Deloua Kassiré Koumako y s'érige en véritable défenseur des militaires.
Ne prenez pas un centime de l'argent des militaires. Vous allez nous créer encore les problèmes de coupeurs de route. C'est eux qui assure la garantie de l'État. Ne les provoquez pas. Les détournements des deniers publics, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le plus simple, c'est de mettre les gens compétents, de bien les payer pour qu'ils ne soient pas tentés. Mais ne commencez pas par ceux qui assurent votre sécurité et qui peuvent vous provoquer des troubles.
Tout comme le général de division Rotun Yuma Golom, aujourd'hui président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, qui a fait observer que le gouvernement est en train de jouer avec le feu.
Ces militaires ont des charges. Ils louent, ils se soignent. On ne peut pas jouer avec le feu. Je trouve qu'il n'y a pas un sens humain dans cette décision. Pourquoi le Premier ministre qui décide de réduire à gauche et à droite maintient son fonds de souveraineté?
Les victimes elles-mêmes murmurent dans les coulisses, mais tenues par une obligation de réserve, elles n'ont pas encore jusque-là réagi officiellement. Mais pour le commun des mortels, le pire est à craindre. André Kodmajingar N'Djamena pour VO Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, le fils aîné du président américain Donald Trump a admis hier avoir volontairement rencontré une avocate présentée comme émissaire du gouvernement russe qui voulait fournir au candidat républicain à la présidence des informations compromettantes sur son adversaire démocrate Hillary Clinton. Le point avec John Lindon.
Un extraordinaire rebondissement dans l'affaire qui empoisonne le mandat du président américain. Son fils Donald Trump Jr., 39 ans, a publié sur Twitter 4 pages de messages échangés en juin 2016 avec un intermédiaire britannique. Le New York Times venait de promettre leur divulgation imminente. Donald Trump Jr. a été contacté par Rob Goldstone, un agent représentant le chanteur russe Emin Agalarov. Rob Goldstone informe le fils de Trump que le procureur général de Russie a proposé à Arras, le père du chanteur, de donner à la campagne Trump des informations et documents officiels qui pourraient incriminer Hillary et ses transactions avec la Russie. « Si ce que vous dites est vrai, j'adore l'idée », a répondu Donald Trump Jr. et plusieurs échanges ont suivi. Le vice-président Mike Pence a pris ses distances avec le fils de Donald Trump qui, de son côté, a salué la transparence de son fils aîné. Depuis, la presse américaine en fait les choux gras.
La lutte contre le groupe État islamique au Proche et au Moyen-Orient, le commandant des forces de la coalition anti-djihadiste en Irak espère que le leader du groupe État islamique, Abu Bakr el-Baghdadi, est bien mort. Mais qu'il soit mort ou non, avertit le général Stephen Townsend, la lutte pour reprendre tous les territoires irakiens pris par les djihadistes est loin d'être terminée. Le général Townsend a souligné n'avoir aucune idée de ce qu'il est advenu d'al-Baghdadi, ajoutant que s'il est mort, cela signifie que quelqu'un d'autre dirige l'organisation et qu'ils essaient de ne rien dire sur son sort pour ne pas affecter le moral de ses troupes. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.